Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique en ce vendredi matin est Thibaut Guignard. Il est président de la Fédération européenne des territoires ruraux. Il est également maire de Pleuc-l'Hermitage dans les Côtes d'Armor. Et il est en direct avec nous au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe et bonjour aux auditeurs et aux auditrices.
Alors on va essayer d'être sérieux après la chronique de Christophe Hamon, sérieux pour parler de politique. Ça ne vous aura pas échappé que ça tangue beaucoup à l'Assemblée nationale. Il y a eu ce spectacle hier soir, spectacle qui fait couler beaucoup d'encre dans les gazettes et chez les commentateurs politiques, mais aussi chez les Français qui s'étonnent de ce spectacle qui nous a été offert hier soir à l'Assemblée nationale où un député MoDem, voilà, on pourrait dire s'est accroché, le terme est presque réel dans la vraie vie comme l'on dit, avec un député socialiste et plus largement aussi un autre député LFI. C'est un triste spectacle que nous offre l'Assemblée nationale en ce moment.
Un triste spectacle, effectivement. Je pense que l'Assemblée nationale n'est pas à la hauteur. Elle n'est pas à la hauteur de la population française qu'elle représente. Elle n'est pas à la hauteur des enjeux du moment. Et je ne voudrais pas parler comme un ancien, mais moi qui ai eu la chance de travailler aux côtés de Marc Le Fur entre 2009 et 2015, je regrette l'ancien temps où les débats étaient parfois rugueux, mais où les députés étaient respectueux et où les institutions fonctionnaient.
Alors, les institutions fonctionnent. Alors, j'allais presque dire, si je voulais me faire un peu l'avocat du diable, elles fonctionnent encore, mais pour combien de temps, puisque on risque un 49-3, puis derrière une motion de censure, en tout cas, motion de censure qu'appellent de leur vœu et le Rassemblement national et LFI, ou plus largement la gauche, on risque de rentrer dans une période d'instabilité et de peu de visibilité politique.
Notre pays a besoin de stabilité. Certains veulent mettre le chaos à l'Assemblée nationale notamment, mais aussi à Matignon, à l'Élysée. Moi, je pense qu'il faut laisser Michel Barnier faire son travail. Michel Barnier a été nommé tardivement. Il a eu 15 jours pour préparer un budget. C'est vrai que certaines choses sont discutables. Il a dû couper à la schlag parce qu'il fallait trouver des économies. Il n'a pas eu le temps d'aller dans le détail. Il n'a pas eu le temps de faire de la dentelle. Il pourrait avoir le temps pour le budget 2026. Il faut lui laisser le temps à lui et à son gouvernement de faire le travail. Nous avons besoin de stabilité.
Alors, en tout cas, les marchés financiers demandent cette stabilité. On sait que les notes des instituts de notation américaines vont tomber dans les heures qui viennent, avec peut-être une note rétrogradée pour la France. Les marchés financiers s'inquiètent aussi puisqu'ils prêtent un petit peu plus cher, en tout cas en taux de prêt pour la France. On arrive presque au taux de prêt de la Grèce. Tout ça sont des signaux quand même plutôt négatifs pour l'économie. Et sans stabilité, on peut imaginer que la France aille sur une pente telle que l'a connue la Grèce en son temps.
Moi, je pense que le principal danger qui est devant nous, c'est un ralentissement très fort de l'économie, parce que les chefs d'entreprise sont dans l'attente, ils reportent leurs investissements, ils reportent leurs recrutements, mais les collectivités territoriales aussi, nous sommes dans l'attente et nous sommes plus frileux pour nos budgets d'investissement 2025. Donc, je pense que au-delà des notes, au-delà des questions de dette, la France a tout de même une dette qui est saine et soutenable, même s'il faut la réduire drastiquement. Je pense qu'au-delà de toutes ces choses qui cherchent aussi à faire peur, il faut surtout voir le vrai danger. Le vrai danger, c'est le ralentissement économique, c'est les plans sociaux qui commencent à arriver. Et à un moment où on aurait besoin de soutenir l'économie, eh bien, nous avons des députés de la nation qui font les oeufs dans l'hémicycle comme hier.
Voilà, on a vu ce coup de poing dans l'hémicycle. Il n'a pas le rôle facile, finalement, Michel Barnier. Il est choisi par le président de la République après un long temps de réflexion, alors que la gauche proposait un candidat, une candidate en l'occurrence, en la personne de Lucie Castet. Il a fort à faire. Il doit négocier, il doit jouer sur le compromis. On lui reproche d'être à la main de l'extrême droite du Rassemblement national. C'est un faux procès qu'on lui fait ?
Moi, je pense que Michel Barnier, c'était le bon choix pour Matignon. Je pense que c'est le meilleur de notre famille politique, et ça, je le pense depuis des années. Il a été malheureusement nommé un petit peu tard. J'aurais aimé qu'il travaille plus tôt avec le président Macron, notamment lorsque son nom a circulé pour succéder à Édouard Philippe. Là, Michel Barnier aurait eu le temps et la capacité de révéler la totalité de son talent qu'il a mis pendant des années au service de l'Union européenne.
On peut rappeler qu'il a... pardonnez-moi, mais il a participé à la négociation sur le Brexit et défendu le droit des pêcheurs français, entre autres.
Tout à fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai assez confiance, on verra ce qui va se passer dans les jours qui viennent, mais j'ai assez confiance dans la capacité de négociation de Michel Barnier, et s'il arrivait à passer cette motion de censure, il serait renforcé, et il pourrait, comme je le disais en introduction, commencer un travail plus de dentelle, de réforme, même de refondation sur certains points, de façon à préparer un budget 2026 qui soit beaucoup plus soutenable et avec beaucoup plus de temps et de méthode pour la préparation.
Alors, si motion de censure il y avait, il n'y aurait pas de shutdown, puisqu'en France, on n'a pas ce système américain qui est très propre aux États-Unis, mais il y aurait simplement un report de budget, finalement. Et ça s'est déjà produit dans l'histoire française, où des budgets n'ont pas été votés en temps et en heure, où finalement, il ne s'est rien passé de très grave.
Le budget 2024 serait reconduit. Mais une motion de censure pour faire quoi? Une motion de censure pour nommer qui? Pour nommer Mme Castex, qui sans doute a de grandes qualités, même si je ne partage pas beaucoup de ses idées politiques, mais qui tomberait au bout d'une semaine, puisque déjà, ce qu'on appelle le bloc central et le Front National ont déjà annoncé que s'il y avait des ministres LFI dans le gouvernement de gauche, eh bien ils censureraient tout de suite, ce que je trouve tout à fait normal au regard du positionnement d'aujourd'hui de LFI. Et donc, elle ne tiendrait pas une semaine. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre organisation que celle qui est aujourd'hui? Donc, je pense qu'avant de censurer, il faut se poser la question de savoir quelles sont les autres alternatives. Alors, on va nous dire la démission du président Macron.
C'est ce qu'on entend beaucoup, finalement.
Voilà, c'est ce à quoi veulent aboutir les partisans du chaos. Mais nous sommes dans la Ve République, avec un régime présidentiel, avec un président de la République qui doit tenir son rôle en politique intérieure, mais aussi sur la scène internationale. Et je pense que pousser à la démission un président de la République comme Emmanuel Macron, ce serait déstabiliser et décrédibiliser la France sur la scène internationale. Emmanuel Macron doit terminer son mandat dans une situation qui n'est pas simple, dont il est en partie à l'origine, c'est vrai. Mais n'oublions pas non plus que si Emmanuel Macron est à l'initiative de la dissolution, la composition de l'Assemblée nationale actuelle est à l'initiative des électeurs et des électrices.
On les a vus d'ailleurs, ces électeurs, ces électrices, se tourner beaucoup vers le Rassemblement national. Je le disais tout à l'heure, qui tient un peu aujourd'hui le sort de cette motion de censure. Le week-end risque d'être un peu long pour Michel Barnier, qui a d'ailleurs...
Michel Barnier ne doit pas prendre beaucoup de week-end en ce moment.
Je le crains. On peut dire en tout cas qu'il a fait des concessions par rapport à ce que demandait en particulier le Rassemblement national. On pense à cette réduction des coûts de l'électricité. Mais finalement, ça n'a pas l'air d'aller assez loin pour le Rassemblement national et aussi pour la gauche. Est-ce qu'il peut encore reculer sur certaines, en tout cas concéder sur le budget certaines dispositions pour éviter de faire tomber son gouvernement?
On parle de recul, on parle de concession, on parle de gestes en direction de tel ou tel, mais en fait c'est de la négociation politique parce qu'il n'y a pas de majorité. Et ça en France on n'est pas habitué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité, donc il faut essayer de constituer au moins une minorité contre la motion de censure. Enfin une minorité pour la motion de censure, ou en tout cas une majorité contre la motion de censure. Donc effectivement c'est de la négociation et c'est là que j'ai confiance dans les capacités et dans les qualités de Michel Barnier. Et moi, je m'opposerai toujours fermement, fortement aux idées de l'extrême droite. Je me suis engagé en politique en 2002 pour soutenir Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Je suis un pro-européen, donc je m'opposerai toujours à l'extrême droite, qu'elle s'appelle Front National, Rassemblement National, Le Pen ou Bardella. Mais pour autant, ils sont là. Les Français ont envoyé une cohorte de députés Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Donc, ils ont effectivement une part de pouvoir et ils l'utilisent pour défendre une partie de leurs idées. C'est la réalité, c'est les Français qui l'ont souhaité.
Est-ce qu'on peut entrer, le chaos arrivait, on va faire un peu de politique fiction, je sais que vous n'aimez pas tellement la politique fiction, mais pour essayer de comprendre, si demain le chaos arrive, on rentre dans une crise qui peut devenir une crise institutionnelle, est-ce qu'on n'arrive pas à ce niveau-là, et je vais me montrer un peu provocant, aux limites de la Ve République?
Arriver aux limites de la Ve République, effectivement, on a aujourd'hui une pratique politique qui est différente de celle d'il y a encore 10 ans. Mais pour autant, est-ce que on doit jeter le bébé avec l'eau du bain et renoncer à cette Ve République qui l'a montré en mai 68, qu'il a montré pendant la guerre d'Algérie, qu'il l'a montré à d'autres époques troublées, qu'elle était solide, que les institutions tenaient. Et donc je pense aujourd'hui qu'elle peut s'en sans doute être modifiée. D'ailleurs, elle a été modifiée sensiblement à plusieurs reprises, hein, notre constitution. Mais pour autant, repartir d'une page blanche pour construire un nouveau système qui ne serait pas forcément en adéquation avec l'histoire de la France, avec la personnalité des Français, qui sont quand même des Français. Et donc, cette 5e République, elle est quand même, je pense, une certaine assurance pour notre démocratie et notre République. Et donc, je pense qu'il ne faut pas non plus complètement la détricoter.
Est-ce qu'il faut y introduire finalement un peu plus de peuple, hein, si vous me permettez le terme, puisqu'on l'a vu, hein, vous le notiez à l'instant, les Français se sont quand même tournés vers le Rassemblement National. On lançait une sorte de message de bouteille à la mer en disant ça ne fonctionne plus, on n'a plus confiance en nos politiques. Et je lisais quelques réactions d'auditeurs ce matin en arrivant à la rédaction qui nous interpellent, nous les journalistes, en disant comment peut-on croire en la politique lorsque l'on voit justement ce spectacle à l'Assemblée nationale.
Eh bien, il faut que chaque électeur de circonscription qui a envoyé un député Rassemblement National ou LFI à l'Assemblée nationale se pose la question. Et il faut que la classe politique se pose la question de savoir pourquoi il y a une telle représentation de partisans du chaos, d'extrême gauche et d'extrême droite, et d'apporter les réponses que les Français attendent pour que le pays s'apaise, aille mieux, et que naturellement les électeurs se tournent vers des candidats du socle républicain, de la gauche républicaine à la droite républicaine. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de choix en termes de politique en France. Mais il faut qu'on soit capable de répondre à l'inquiétude, parfois même aux angoisses de nos concitoyens, qui font qu'ils vont le dimanche dans leur bureau de vote pour glisser un bulletin de vote LFI ou Rassemblement National. Mais aujourd'hui, l'extrême gauche et l'extrême droite, même si leurs positionnements sont différents, le résultat, ce serait le même.
Est-ce que la droite républicaine et d'un autre côté, par exemple, le Parti socialiste, n'ont pas su entendre, écouter les Français à un moment donné, se sont un peu éloignés des Français et en paient aujourd'hui un peu le tribut, et nous aussi les Français, on en paie un peu le tribut politique?
Je crois que à gauche, il y a toujours les cicatrices du mandat de François Hollande, qui, souvenons-nous, quand même a été un mandat assez catastrophique. La droite a du mal toujours à se reconstruire après l'affaire Fillon. On a eu l'émergence de ce bloc central autour d'Emmanuel Macron, qui sans doute n'a pas utilisé tous les leviers qu'il avait pour réussir, et moi je le regrette. Mais je pense que nous sommes face à une recomposition de la politique, à une polarisation de la politique, mais qui n'a pas lieu qu'en France. Si vous regardez dans les autres pays européens et même dans le monde, si on regarde les États-Unis d'Amérique, on a effectivement une polarisation avec des extrêmes qui sont forts. La question, c'est comment est-ce que les gens modérés, républicains de bonne volonté, arrivent à travailler ensemble en se mettant d'accord sur un programme de base. Après, on peut toujours aimer un peu plus le rose, aimer un peu plus le bleu, aimer un peu plus le orange. Mais la question, c'est quelles sont nos valeurs communes et autour de quel programme de base, au service des Français et des Françaises, on est capable de se mettre d'accord.
Un peu plus largement, elles sont bousculées, nos valeurs communes, on le voit, je faisais référence à l'instant, Thibaut Guignard, à l'échelle européenne, et voire états-unienne, de ce qui se passe un peu avec cette montée des populistes et des pouvoirs peut-être un peu plus durs, on pourrait le dire comme ça, ou en tout cas conservateurs. Il y a aussi une menace, je vous sais, grand européen convaincu, il y a aussi une menace sur l'Europe, il y a cette menace de guerre, toujours et encore, avec une guerre qui serait plus globale, qui irait au-delà des frontières de l'Ukraine, on pense à la Russie évidemment, on voit une déstabilisation de l'Asie-Pacifique et de l'autre côté, Donald Trump qui dit, voilà les Européens, vous allez vous débrouiller entre vous, moi j'assure plus votre défense si vous ne payez pas. On est en train d'avoir une grande recomposition finalement géopolitique et même politique du monde.
Avec une obligation pour l'Union européenne de se renforcer notamment sur l'objectif principal qui était celui des pères fondateurs, c'est-à-dire la paix. Mmh. On a considéré que la paix était un acquis, mais l'Union européenne est en guerre. Quand vous fournissez des armes, quand vous formez des militaires, quand vous mettez des sanctions économiques contre un pays, vous pouvez toujours dire que vous n'êtes pas co-belligérant parce que vous n'envoyez pas des militaires sur le front. Enfin, néanmoins, vous envoyez des avions, des chars et vous formez les conducteurs et les aviateurs. Donc moi, je considère aujourd'hui que l'Union européenne est en guerre et qu'elle doit donc rentrer dans une économie de guerre et qu'elle doit renforcer sa capacité militaire. Est-ce que c'est une défense européenne ? Je ne sais pas. Est-ce que ce sont des défenses nationales avec une puissance nucléaire comme la France qui s'organise davantage et qui compte sur elle-même pour se défendre ? C'est-à-dire que ces dernières années, l'Union européenne a fait des efforts en acquisition de matériel militaire pour l'Ukraine, mais c'était du matériel militaire acheté en dehors de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, il faut que l'Union européenne compte sur elle-même. On ne peut pas compter sur les autres pour ce qui est le plus important, c'est-à-dire notre défense, la paix et la démocratie. Parce que la guerre de Vladimir Poutine, c'est la guerre contre l'Ukraine, mais en fait, c'est la guerre contre les valeurs européennes. La démocratie, les droits humains, le droit de vote, l'égalité entre les femmes et les hommes, etc. Tout ça, ce sont des choses que Vladimir Poutine ne supporte pas. Donc aujourd'hui, l'Ukraine, demain, la Pologne ou les Pays-Baltes, et c'est toute l'Union européenne qui pourrait être attaquée directement ou indirectement. Donc ayons l'honnêteté de reconnaître que nous sommes en guerre et qu'il faut donc prendre des mesures pour que l'Union européenne ne compte que sur elle-même, puisque malheureusement, notre partenaire historique des États-Unis d'Amérique vient de réélire un président sur lequel on ne peut pas compter.
Il faut imaginer la suite avec une sorte, je mets les guillemets, d'OTAN européenne quelque part.
Oui, bien sûr, il faut renforcer la défense de l'Union européenne pour être capable de défendre nos frontières face à l'agression russe, à l'agression russe qui est déjà soutenue militairement et humainement par d'autres dictatures. Donc la mondialisation du conflit, elle commence, hein.
Avec une guerre asymétrique aussi autour de l'information, on l'a compris, les réseaux sociaux sont un petit peu au cœur de cette désinformation, on pourrait le dire comme ça, mais aussi les réseaux télécommunications, on a vu ces câbles sous-marins coupés entre la Norvège et la Suède, par exemple. Alors, un acte de sabotage a priori qu'on impute à la Chine, sans trop l'évoquer. On rentre dans autre chose aujourd'hui, on a un monde qui se durcit.
On a pensé que s'il devait y avoir de nouvelles guerres, ce ne serait plus des guerres d'artillerie, des guerres sur le terrain, ce serait des guerres numériques, etc. Finalement, on a tout à la fois. Mmh. C'est-à-dire qu'on a des Ukrainiens qui sont dans les tranchées, comme nos poilus en 14, qui sont dans les tranchées, là, cet hiver, sous la neige, sous la pluie, dans la boue, avec des morts à leur côté. Et en même temps, on a cette guerre numérique, cette guerre de la désinformation, etc. Et on s'est peut-être préparé sur la question des nouvelles formes de guerre, mais on a complètement oublié qu'il fallait encore des chars, des avions et des lignes de front. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que l'on a redécouvert, parce que depuis 1989, on pensait que la paix était un acquis définitif. Or, ce n'est pas du tout le cas.
On a aussi cette perte d'influence. Je vais revenir à la France, mais cette perte d'influence française, on le voit en Afrique, avec cette demande du Tchad, par exemple, de la fermeture des bases militaires, alors qu'il se fait dans la concertation. Mais est-ce que la France est en train de perdre un peu de terrain diplomatique ?
Oui, évidemment, la France est en train de perdre du terrain diplomatique, parce que la diplomatie, elle est souvent portée par l'économie. Et qu'aujourd'hui, on a des grandes puissances comme la Chine qui investissent partout, mais qui ne portent pas les mêmes valeurs que la France et les autres pays de l'Union européenne. Et donc, lorsque la France est en Afrique pour faire du développement économique, pour faire de l'aide humanitaire, pour faire de la francophonie, pour faire des échanges culturels, etc., elle ne porte pas les mêmes valeurs que lorsque la Chine construit un port ou un pont avec des contreparties qui sont signées par les dirigeants africains. Et donc aujourd'hui, on peut regretter qu'effectivement, par besoin d'argent, certes, on le sait très bien, les pays africains ont besoin d'argent, par besoin d'argent, peut-être parce que les autres pays ne sont pas capables de correctement partager la richesse, eh bien, ils se tournent vers des pays comme la Chine, qui sont en fait plutôt des banquiers, que des pays philanthropes.
Et il y a aussi peut-être l'envie de tourner la page du colonisateur, du pays colonisateur jadis.
Oui, sans doute, mais on ne refera pas notre histoire. Sans doute que les pays d'Afrique ont des reproches à faire à la France sur la colonisation, mais la France a aussi des reproches à faire à d'autres pays avec qui elle a su se réconcilier, je pense à l'Allemagne. Donc regardons notre histoire en face, disons-nous les choses, mais avançons. Et aujourd'hui, si vous regardez sur la carte du monde, entre l'Union européenne et l'Union africaine, il n'y a qu'un petit lac qui s'appelle la mer Méditerranée, Et donc, en fait, c'est un grand ensemble qui va du nord au sud et qui a tout intérêt à travailler ensemble.
Il faut poser des passerelles au-dessus de la Méditerranée.
Exactement. Il faut créer des ponts plutôt que de créer des murs.
Avec un affaiblissement de la France aussi, on le disait en commençant avec ce budget qui est très chaotique, un affaiblissement économique, une nation affaiblie économiquement est une nation vulnérable. Est-ce qu'il y a urgence aujourd'hui à trouver les solutions, et ça nous ramène au budget encore, à trouver des solutions, y compris dans nos territoires, puisqu'on le voit, et là je m'adresse au maire que vous êtes, Thibault Guignard, on le voit, et vous le disiez également tout à l'heure en début d'interview, les difficultés que connaissent les territoires pour pouvoir assurer leur financement aujourd'hui, pour pouvoir boucler simplement leur budget, et au-delà de ça, assurer les missions de territoire qu'attendent les habitants, qu'attendent les administrés.
Aujourd'hui, on nous annonce une ponction alors entre 3 et 5 milliards sur le budget des grandes collectivités, des 450 plus grandes collectivités. Il semblerait que Michel Barnier fait un geste en direction des départements qui sont vraiment dans une difficulté énorme avec l'explosion des besoins sociaux. Mais du côté des collectivités, du côté des mairies, on nous explique déjà depuis longtemps qu'il faut toujours faire plus avec moins. Il faut quand même se souvenir que sous le mandat de François Hollande, on nous a supprimé 11 milliards d'euros de dotation globale de fonctionnement. 11 milliards d'euros, on ne les a jamais retrouvés. On peut remercier le président Macron d'avoir maintenu la DGF légèrement augmentée, mais pas au niveau de l'inflation, mais légèrement augmentée. On avait perdu 11 milliards. Donc ça fait déjà longtemps qu'on nous explique qu'il faut faire plus et mieux avec moins. Mais au Congrès des maires, j'ai entendu autre chose que des questions purement financières. J'ai entendu un mal-être qui est lié au fait qu'on peut plus prendre d'initiative, qu'on peut plus innover à cause des normes, à cause des règlements, à cause des plans, des schémas qui nous cadrent et qui sont coercitifs. J'ai entendu des maires qui sont fatigués par la complexité, qui voudraient de la simplification administrative. J'ai aussi entendu des maires qui sont heurté par l'attitude de certains de nos concitoyens qui n'ont plus le respect de la fonction et qui ne sont plus dans le dialogue, mais plutôt l'agression. Et je pense donc que le malaise des maires, il est plus profond qu'un problème financier qui est important, et je le disais notamment sur l'économie, parce que les collectivités territoriales, c'est 70% de l'investissement public. Ça veut dire que si on ralentit, c'est toute l'économie qui ralentit. C'est l'économie des TP, du bâtiment, etc. Et aujourd'hui, il devient très difficile d'investir, puisque pour simplifier, une collectivité, pour investir, elle peut emprunter, elle peut avoir des subventions, mais elle doit avoir une part d'autofinancement. Et cet autofinancement, il provient du résultat de l'année précédente. Et nos résultats, notre capacité d'autofinancement, diminue d'année en année en raison de nouvelles charges, en raison de l'inflation, etc. Donc aujourd'hui, en termes d'investissement, les collectivités auraient la capacité d'investir. Encore faut-il qu'elles aient la capacité de rembourser ou d'autofinancer. Donc moi, en sortant du Congrès des maires, je me suis dit effectivement, les finances, c'est une chose. Après, tout le monde est aussi conscient que les finances de notre pays sont dans un état catastrophique. Mais il y a un malaise qui est beaucoup plus profond et qui mérite qu'on ne focalise pas uniquement sur les questions financières, mais qu'on se focalise aussi sur le fonctionnement et sur le rôle du maire. L'intercommunalité a changé énormément de choses. Moi, je ne suis élu que depuis 10 ans par rapport à certains collègues qui sont là depuis 30 ans. Mais déjà depuis 10 ans, j'allais dire, et ces grandes intercommunalités aujourd'hui ont complètement transformé le rôle du maire. Le maire aujourd'hui a un rôle de médiation entre l'usager et l'intercommunalité sur des compétences importantes comme les ordures ménagères, les transports, etc. Mais sur lesquelles il n'a pas la main, sur lesquelles il n'a pas totalement la main. Il l'a en partie lorsqu'il est en conseil d'agglomération, mais un parmi 80 élus. Et donc l'exercice du mandat de maire a beaucoup changé. Donc moi je pense qu'il faut redonner de l'air aux maires. Il faut leur redonner une capacité d'action, il faut leur simplifier la vie de façon à ce qu'ils puissent reprendre du plaisir à être maire, parce que c'est quand même un mandat formidable.
Mandat formidable, avec les contraintes, vous le soulignez à l'instant, Thibault Guignard, souvent une plus grande attente de la part des administrés. Aujourd'hui, on est client, finalement, quelque part, et il y a donc ces attentes vis-à-vis des élus. on le voit aussi, ces actes d'incivilité, parfois ces coups de poing vis-à-vis des élus. C'est quelque chose qui vous inquiète, vous, vous avez subi ça, Thibault Guignard, par exemple, à Pleuc-sur-Lieu. Est-ce qu'on vous a des fois un petit peu molesté dans votre mandat de maire?
Alors moi, j'ai subi deux épisodes en 10 ans. Le premier, ça a été une agression, une tentative d'agression physique qui, heureusement, n'a pas eu lieu parce que j'étais protégé par d'autres concitoyens et que j'ai pu m'enfermer dans un commerce du centre-bourg en attendant les gendarmes. Et puis, l'année dernière, à la même époque, pendant la tempête, quelqu'un qui s'est introduit à mon domicile pour s'assurer que le maire n'avait pas l'électricité avant les autres le soir de la tempête. Et c'est particulièrement choquant, c'est particulièrement déstabilisant. J'irais même que ça crée une remise en cause. On réfléchit au sens de son engagement. Moi, je me suis pas engagé en politique pour que quelqu'un s'introduise à mon domicile de nuit alors que mes enfants sont là pendant une coupure de courant et qu'il s'éclaire avec des bougies pour vérifier que le maire n'a pas l'électricité avant les autres citoyens. Néanmoins, je pense que il faut pas là non plus uniquement focaliser sur les maires. Notre société est de plus en plus violente. Mmh. Demander aux secrétaires de médecins qui doivent refuser de donner des rendez-vous, comment elles sont traitées. Demander aux instituteurs, aux professeurs, aux gendarmes, aux policiers, comment ils sont agressés. Mais comment voulez-vous avoir une société qui s'apaise et des gens qui soient plus posés s'ils voient à la télé leurs députés qui en viennent aux mains et qui transforment l'Assemblée nationale en un vrai cirque? Donc je pense que les élus ont une part de responsabilité. Je pense que notre société est de plus en plus violente et que donc les maires font partie des réceptacles, mais ils ne sont pas les seuls. N'oublions pas tous les autres qui sont aussi face à cela. Je pense notamment aux professeurs dans les quartiers difficiles, etc. C'est à mon avis un problème général et pas uniquement un problème contre les élus.
Il faudra avoir une réflexion quand on aura un peu apaisé cette société, une réflexion autour justement du fameux vivre ensemble, hein, dans l'acception du terme le plus large.
L'éducation, les règles, le respect des règles. Et donc il faut revenir dès le départ à l'éducation, au respect de l'instituteur, au respect des règles, etc. C'est la base même. Et depuis quelques années, on a d'autres mouvements de pensée qui nous disent il est interdit d'interdire, etc. Non, il y a des règles, il faut les faire respecter. Et si elles ne sont pas respectées, il faut sanctionner. Et ça va de la sanction de l'enfant dans la cour d'école jusqu'à la sanction judiciaire de l'adulte qui a enfreint la loi. Mais pour cela, il faut que la justice soit aussi ferme. Et pour cela, il faut qu'elle ait des moyens de fonctionner. Et donc un budget.
J'avais envie, pour conclure, de terminer sur une petite note un peu prospective, on pourrait le dire comme ça, avec des mots un peu choisis. Il faut enlever les caméras de l'Assemblée nationale, parce qu'avant, il n'y avait pas de caméras. Il y avait pourtant des... Parfois, on se jetait les encriers en un autre temps à la figure. Ça nous ramène à Clémenceau, vous me direz. Mais est-ce qu'il faut peut-être enlever les caméras pour éviter qu'il y ait une forme de show à l'Assemblée? Le terme va peut-être vous choquer, mais est-ce qu'il faut penser à ça?
Je ne sais pas si le problème, c'est la caméra, parce que la caméra, la pauvre, elle a rien demandé à personne, et je pense que nos concitoyens ont le droit d'avoir une transparence. Mais lorsque je travaillais à l'Assemblée nationale, j'étais toujours surpris de voir, mais ça c'était il y a 10 ans, hein, de voir la qualité des débats et la sérénité des débats, quelles que soient les familles politiques, toute la semaine, et puis pendant les questions au gouvernement, où là, il y avait à l'époque France 3 qui
diffusait
en direct, pendant les questions au gouvernement, un cirque pas possible, un bazar, qui s'arrêtait à 16h15, lorsque les questions au gouvernement s'arrêtaient, et les députés reprenaient des débats sereins, sur le fond, etc., réussissaient à trouver des amendements communs, etc. Mais ça, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, tout ça a changé. Le cirque est permanent, mais là aussi, les 577 députés ne sont pas tous des zouaves, hein. Il y en a aussi qui travaillent, il y en a aussi qui sont respectables, il y en a qui essayent de se faire passer pour respectables, mais il y en a aussi beaucoup, justement dans le socle commun, qui sont respectables, et je pense notamment à notre jeune député de la 3e circonscription des Côtes d'Armor, Corentin Le Fur, qui fait un travail remarquable depuis son élection.
Voilà, il faut souligner que tous les députés ne font pas le chahut.
Exactement.
Thibault Guignard, président de la Fédération européenne des territoires ruraux, maire de Pleuc-l'Hermitage, était notre invité politique ce matin pour commenter cette actualité politique. Et il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. Merci infiniment d'avoir
Merci
été avec nous.
Très bonne journée à toutes et à tous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.